Bonjour et bienvenue sur la radio du Grand Circuit. Cette émission est présentée et animée par Xavier Faure.
Bienvenue sur la radio du Grand Circuit. Tous les trimestres, le Grand Circuit Énergiser le Bâtiment réunit les acteurs de la filière électrique pour ses conférences. La radio reprend les échanges intervenus lors de la table ronde d'ouverture. À la technique aujourd'hui, notre belle équipe avec Morgane Tudal, Benjamin Thaïs et Guillaume Poulouin. Ce trimestre, nous apportons un éclairage particulier sur les nouveaux usages dans le bâtiment. On y découvre de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques pour les professionnels. Comment la filière électrique relève le défi de l'autoconsommation, de la recharge des véhicules électriques, de la fibre optique ou encore du bâtiment connecté? Les experts de l'intégration électrique et des technologies de l'information apportent leur éclairage autour de la table ronde du Grand Circuit Énergiser le Bâtiment. Une émission enregistrée le 2 décembre 2019 à Paris. Installez-vous bien, vous écoutez la radio du Grand Circuit.
On a une table ronde tout de suite qu'on va commencer avec, donc j'appelle tout de suite Sébastien Meunier, ABB France représentant Jimélec, Gilles Genin, chef d'entreprise et représentant FFIE, Lilian Cole pour l'Anitec et Dominique Naert pour le cluster patrimoine bâti, je devrais dire 4.0. Je vous laisse vous asseoir, prendre chacun une chaise et il faut prendre un micro.
Alors peut-être ce que je peux proposer, c'est de commencer par un premier tour de table de présentation pour vous présenter qui vous êtes rapidement. Sébastien.
Bonjour, donc je suis Sébastien Meunier, directeur du développement pour ABB en France. Et donc aujourd'hui, je représente le Jimélec.
Bonjour à tous. Donc je suis le président directeur général d'Ingetel BET, qui est un bureau d'études télécom qui a maintenant 20 ans d'existence. Et je suis par ailleurs donc effectivement membre et président du métier IT de l'Anitec.
Bonjour, Lilian Cole, directeur technique de l'Anitec, l'Alliance nationale des intégrateurs en technologie, connectés, pilotés, sécurisés. Donc on aura l'occasion de, je pense à travers les échanges de la table ronde, de faire état des problématiques qui nous concernent, notamment sur mon sujet qui touchera par rapport aux risques cyber.
Bonjour, je m'appelle donc Dominique Naert. Ici, je me présente en tant que président du conseil scientifique du cluster patrimoine bâti 4.0. Alors ce cluster a comme ambition de rassembler l'ensemble des écoles d'ingénieurs, écoles universitaires, centres de formation jusqu'au CFA, et centres de recherche pour travailler sur la rénovation du patrimoine bâti.
Voilà. Donc, merci pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, on voulait rappeler le contexte qui est quand même la loi de transition énergétique et de croissance verte. Donc, moins d'énergie, moins de carbone, une transformation de la filière électrique avec le numérique. Et donc, Sébastien Meunier pour ABB France Jimélec. Aujourd'hui, comment vous voyez l'arrivée de ces nouveaux métiers? Et on parle d'intelligence artificielle également. Et donc, quelles sont les recommandations qu'on peut faire à la filière?
Donc, j'ai 2 heures.
Voilà, un peu moins.
Voilà, bon alors, pour ce premier tour. Donc, sur le Jimélec, hein, c'est un syndicat professionnel qui regroupe à peu près 200 adhérents, 15 milliards de chiffre d'affaires en France, 67 000 emplois. Et donc, on s'intéresse aux infrastructures électriques et numériques, alors aussi bien dans l'industrie, dans les réseaux d'énergie, dans l'électromobilité et bien évidemment dans les bâtiments. Depuis 2016, je préside un groupe de travail qui s'appelle Transformer la filière, qui travaille justement sur les impacts du numérique dans nos métiers et sur nos marchés. Donc là, bon, ça fait la troisième année qu'on travaille là-dessus. Et donc, il y a un certain nombre d'actualités que je voulais partager avec vous qui nous confortent en fait dans ces travaux. Donc, effectivement, on a le décret tertiaire qui est sorti cet été, donc qui va amener à des réductions d'économie d'énergie à 2 chiffres dans les bâtiments. On a la loi climat-énergie qui a été promulguée le 9 novembre, dans lequel on retrouve des grands chiffres sur la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi 6,4 gigawatts de capacité de flexibilité électrique à dégager d'ici 2028. On a la neutralité carbone d'ici 2050. On a, in fine, une proportion d'énergie renouvelable dans le réseau qui va atteindre au niveau mondial 50% Et après, pour la France, je vous renvoie à la PPE et à la SNBC. Donc, on a différents chiffres, on a plusieurs étapes. On a 2028, on a 2035, on a 2050. Donc, on a des gros enjeux vis-à-vis de ces objectifs que la collectivité s'est fixés. Et donc, vis-à-vis de ça, on a des solutions qui sont amenées par le numérique, par des logiciels, par des algorithmes, par de l'utilisation de la donnée, qui vont permettre, au travers de la gestion active, mais aussi donc de la connectivité vers l'extérieur, vers le réseau d'énergie, qui va permettre de maximiser l'utilisation d'énergie décarbonée. Et donc, le bâtiment en France, qui représente 43% de la consommation d'énergie primaire et qui représente 120 millions de tonnes de CO2 par an, est un très bon candidat pour aider à atteindre ces objectifs de transition qui ne sont pas évidemment dédiés spécialement au bâtiment, mais dont le bâtiment fait partie. Donc avec ces technologies du numérique, on a des outils pour parvenir aux objectifs.
Gilles Genin pour la FFIE, on voit de nouveaux métiers d'ailleurs. Je crois que la signature de la FFIE change. Donc d'électricien, on devient intégrateur. Finalement, c'est quoi ces nouveaux métiers de demain? On en parle depuis quelque temps, mais quel est votre point de vue là-dessus?
Je dirais, Xavier, que effectivement, à ce niveau-là, à partir où on parle de numérique, tout un chacun a un smartphone dans sa poche, c'est que cet objet doit se mettre à jour régulièrement avant de présenter des problèmes fonctionnels ou de failles de sécurité. Et donc, en quelque sorte, il faut s'imaginer que le bâtiment de demain, en fait, va avoir besoin, en fait, de ce que j'appelle un acteur, un DSI de bâtiment, en quelque sorte un directeur des systèmes d'information du bâtiment, qu'on appelle aussi un opérateur local de service IT aussi également, et qui va être là, en quelque sorte, pour mettre en musique tout ce numérique. Et donc, pour le mettre en musique, il va falloir qu'il en gère son infrastructure et son réseau, qui est en fait la partie immobilière de la chose, qu'il va falloir gérer d'une façon transversale, puisque cet outil-là, je dirais, va en quelque sorte rassembler demain tous les systèmes qui communiquent dans un bâtiment et qui vont venir s'y connecter. Donc, c'est un réseau complètement transversal, en quelque sorte, donc sur lequel va venir se connecter autant de musiciens qu'on a de systèmes communicants. Donc pour cela, il nous faut un chef d'orchestre qui soit capable de gérer l'ensemble des partitions et de jouer la symphonie numérique du bâtiment. Et donc, bien entendu, son rôle va être, je dirais, dans ces aspects-là, tant de sécurisation de tout cela, parce qu'il y a des obligations aussi qui nous sont imposées par le RGPD à ce niveau-là. Et il aura donc de nombreux rôles à assumer, je dirais, dans le cadre de la gestion numérique et des données qui sont issues du bâtiment.
Lilian Cole, pour l'Anitech, d'ailleurs, vous faites la transition, Gilles, sur ce sujet-là, c'est effectivement RGPD. Donc, on a des données, Sébastien Meunier en parlait aussi, c'est de la data. Donc, on a envie de faire plein de choses, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Et puis, on voit d'ailleurs, l'actualité nous rattrape, c'est que récemment, il y a un hôpital en France qui a été piraté et sur lequel, finalement, ils sont revenus au papier et au crayon dans l'hôpital, ils ne pouvaient plus faire radio. En tout cas, le numérique ne fonctionnait plus. Donc, aujourd'hui, vous travaillez sur ces sujets au sein d'Anitech, sur les problèmes de sécurité ouverte avec le numérique.
Oui, alors, même chose que Sébastien Meunier, j'ai une semaine pour agir, non Transition numérique, révolution dans les domiciles, dans les entreprises, ouverture et interopérabilité des systèmes. Quel paradigme, on le souhaite tous. Et pourtant, effectivement, c'est la porte ouverte de plus en plus maintenant aux attaques. On célèbre dans les jours prochains la décennie de Stuxnet, le premier, on va dire, virus intelligent, entre parenthèses, fomenté, fabriqué par les USA et Israël pour venir impacter le nucléaire iranien, avec la première attaque, on va dire, d'intelligence faite à travers un virus informatique pour venir impacter, on va dire, les centrifugeuses. Le temps a passé. Ce qu'on pensait il y a 10 ans encore n'être que science d'État et avec capacité et moyens, on s'en rend compte à peu près maintenant tous les jours des attaques qui sont montées par, alors on va pas dire des bricoleurs du dimanche, mais par quand même des gens qui sont capables d'utiliser le net profond et autres pour aller chercher et acheter, on va dire, des virus et capables de venir impacter les entreprises. Vous parliez de l'Anitech. Oui, en 2017, on a commencé effectivement à s'intéresser de manière très précise à ces aspects. Pourquoi ? Lorsqu'on s'est rendu compte, nous par exemple d'un serveur qui s'appelle OVH, de l'attaque en fait de 3000, ce qu'on appelle des botnets ou des zombies, de 3000 caméras de vidéoprotection en IP. Qui ont paralysé un certain nombre d'infrastructures en France. Donc ça a été, on va dire, ce qui nous a, nous, en tant qu'intégrateurs, appelé à réfléchir. Donc, vous avez parlé du RGPD, on aurait pu en parler, si on avait le temps, de parler de la directive NIS aussi, qui vient impacter et qui impactera demain les entreprises. On pourrait, si on avait le temps aussi, évoquer le Cloud Act européen et son équivalent américain, qui, à travers un article 48, intéresserait plein de gens, ne serait-ce que lié, on va dire, à l'origine géographique, l'implantation des data centers. Puisque si on parle là aussi d'intelligence artificielle, à un moment donné, on va se rendre compte que tout ça, vous l'avez dit Xavier, vous avez parlé de la data. La data, il faut la stocker où, comment la sécuriser, etc. S'intéresser effectivement aussi à la cybersécurité demain, alors peut-être pas forcément à l'échelon, on va dire, du silo, du résidentiel, ce qu'on appelle le smart home, de manière peut-être plus précise sur le smart building, demain sur le smart city. S'interroger d'abord avec des questionnements alors qui en fâcheront peut-être certains, d'autres pas, de savoir à qui appartient la donnée. Je veux dire, est-ce qu'elle aura plusieurs propriétaires dès lors qu'elle sera apprise de manière brute, valorisée. Moi, j'ai souvent tendance à essayer d'être pédagogue par rapport à nos adhérents en leur disant que finalement, la donnée, c'est avant tout du pétrole brut, l'or noir de demain. Donc, fonction de la manière dont elle sera raffinée, reprise par différents acteurs. Donc, comment on va assurer la confidentialité de ces informations, son intégrité, sa disponibilité. Comment on va s'assurer là aussi, on a tendance à écouter chez de nombreux politiques, on entend parler en ce moment beaucoup de fake news. Donc, comment on va se garantir effectivement que l'information avec laquelle on va travailler sera réelle et porteuse, on va dire. Donc tout ça, ce sont des sujets qui effectivement viennent impacter également effectivement les intégrateurs. On a de plus en plus tendance aussi à la NITEC à ouvrir les bras pour dire voilà, ça ne peut pas être une discussion qui reste uniquement le sujet des fabricants, uniquement le sujet des clients. C'est bien évidemment le problème des intégrateurs, c'est une affaire de tous en fait. Et donc ça, c'est, je veux dire, la question et le défi de demain. C'est le défi de demain pour nous tous. C'est le défi de demain également, pour reprendre ce qu'a dit M. Colomba, par rapport à la formation. Donc la montée chez nous également en compétences, des montées de marche dans le domaine de l'architecture des réseaux, dans la sécurité des réseaux. Je veux dire, pour pouvoir effectivement demain sécuriser chez les clients, eh ben, il va falloir effectivement prendre à bras le corps cette question de la formation. Et puis même si on n'aura pas trop le temps de développer, dire on peut avoir n'importe quel Rolls-Royce dans le domaine de la cybersécurité installé chez le client. Si on loupe le coche en termes effectivement de sensibilisation, de formation des donneurs d'ordre, ou après demain, de l'aspect de la maintenance de ces systèmes-là, on n'aura malheureusement rien compris.
Justement, vous avez fait la transition pour Dominique Naher du cluster patrimoine bâti. On parle de formation. Il y a quand même une sacrée marche à monter aujourd'hui pour passer du métier. Là, je parle d'électricien, mais on pourrait y parler de manière générale dans le bâtiment. Hein, l'ensemble des, ça, c'est votre sujet, Dominique Naher. L'ensemble des métiers du bâtiment sont impactés par une marche à monter qui est imposée par le numérique. Et la question, c'est comment on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ?
De toute façon, c'est inéluctable, on doit y arriver. C'est ça qui est intéressant avec le numérique, c'est que qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on soit contre, qu'on soit pour, c'est inéluctable, on le fera. Donc ça veut dire maintenant qu'il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que si nous, on ne le fait pas, il y en aura d'autres qui viendront le faire. C'est aussi simple que ça, il faut se poser des questions simples en définitive. Et ce que ça veut dire aussi qu'effectivement, je l'avais dit il y a 2 ans, puisque j'étais intervenu il y a 2 ans, l'électricien va être un petit peu la tête, le pilote maintenant du bâtiment. Alors, on vient de parler tout à l'heure du développement durable. Le développement durable nous impose des choses fondamentales qu'il faudra atteindre. Le numérique, lui, c'est pas la même chose. C'est le numérique, c'est lui qui nous impose d'être performant. Donc, quand j'ai dit tout ça, ça veut dire qu'un recrutement. Pendant 10 ans, on a abandonné tout ça puisqu'on était en difficulté économique. On a abandonné le recrutement. Il faut être attractif. Et derrière tout ça, il faut faire en sorte que tout le monde monte en compétence. En premier lieu, le chef d'entreprise. En deuxième lieu, l'assistante, le maîtreur, tout le monde. Jusqu'à l'électricien, évidemment, qui sera sur le terrain. Je reste persuadé aussi, d'ailleurs, que, le métier d'électricien a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est le fait qu'il va pouvoir recruter, et il recrutera de plus en plus, il recrute déjà, au niveau BTS ou DUT. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra aller même plus loin. Il faudra des ingénieurs d'application. Plus on complexifiera le bâtiment, plus il faudra avoir des gens qui soient adaptés à cette complexification, qui répondent à ce que disent les Allemands, ils appellent ça les travailleurs 4.0 ou les travailleurs hybrides, c'est-à-dire des gens capables d'intervenir à différents niveaux. Donc quand j'ai dit ça, ça veut dire qu'il faut monter toute une filière, une sorte de campus qui permette de répondre à tout ça. Alors je ne sais pas si on peut développer tout le reste, c'est-à-dire les types de formations, des types de formations actives, rapides, avec des pédagogies très rapides, parce que le principe, il est de se dire, aujourd'hui vous apprenez quelque chose, dans 6 mois, vous allez apprendre autre chose qui sera, parce que là, ça sera dépassé. C'est pas que ça sera dépassé dans ce sens où il faudra plus le savoir. Si, il faudra toujours le savoir, mais il faudra encore apprendre autre chose. Donc, il faut avoir des systèmes pédagogiques très au point, très rapides à apprendre, et mettre en place, évidemment, tout ce qu'on connaît, le MOOC, la formation en entreprise, c'est-à-dire, en fait, avec la FEST, maintenant, on peut effectivement mettre un formateur qui va venir sur un chantier spécifique pour faire des choses spécifiques. Je pense encore que, effectivement, comme vous l'avez dit, on est dans un écosystème où tout le monde doit être intégré. C'est-à-dire qu'en fait, le fournisseur, c'est-à-dire l'industriel, doit lui aussi mettre à disposition des formations, parce que là, ici, on a un peu la formule 1 de l'électricité et du bâtiment, mais moi, je viens de faire une rénovation dans le Périgord. Mon électricien, avec quelques petits soucis, il ne comprendrait pas forcément ce que vous dites là. Et donc, comment je fais pour le faire monter? Alors, lui, ce n'est pas compliqué, il se retourne, il va chez Legrand ou il va chez son fournisseur. Et son fournisseur lui donne l'information. Donc, il va falloir mettre en place des systèmes d'information qui fera de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, la formation, ce n'est pas simplement aller en cours et suivre quelque chose, sinon ça ne fonctionne pas.
Gilles Genin, pour la FFU, on parle de montée en compétences de formation. Ce que vous disiez, Bernard Colomba, en préambule, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui, parce qu'il y a des gros projets qui arrivent, le Grand Paris. Donc, on a aujourd'hui une filière qui est sous tension en termes d'emploi. Et comment on arrive à faire monter en compétences une filière qui a du mal aussi aujourd'hui à recruter pour répondre à ses besoins premiers sur ces marchés actuels?
Je dirais déjà, pour commencer, il va falloir dépasser ses peurs. La peur est quelque chose d'irrationnel. On voit bien et on sait très bien, je dirais, qu'il va falloir qu'on aille vers les métiers de l'IP, vers les métiers du numérique, vers l'Ethernet. Et donc tout ça sont des technologies aujourd'hui que la plupart des électriciens et installateurs ignorent et vers lesquelles, de toute façon, ils devront inéluctablement aller. Donc demain, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous dans ce que vous disiez tout à l'heure, demain chez nos électriciens il y aura moins de câbleurs et moins de monteurs, et il y aura plus de techniciens et d'ingénieurs, et ça c'est inéluctable, parce que c'est là de toute façon où se situe la véritable valeur ajoutée de notre métier, et on ne pourra pas de toute façon aller contre cela, et ceux qui iront contre, malheureusement, ça sera les morts de demain en quelque sorte. Et donc de toute façon, aller vers cette direction là il faut déjà avoir envie d'y aller, et pour avoir envie d'y aller, il faut vaincre ses peurs. Il ne faut pas se faire, je dirais, tout un monde de ce qu'est le numérique avec Ethernet, IP, etc. Bien sûr que c'est un environnement que les électriciens, aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ne connaissent pas, bien sûr. Mais tout cela s'aborde et s'apprend, je dirais pas avec autant de simplicité, mais presque, je dirais, que ce que vous avez déjà appris aujourd'hui pour exercer votre métier. Simplement, je dirais, c'est une brique supplémentaire de compétences qu'il va falloir venir rajouter et qui ne sera pas contournable, parce que de toute façon, on va vers aussi, je dirais, beaucoup plus d'utilisation du courant continu, du power over Ethernet, donc qui va nous permettre d'apporter de l'alimentation électrique et de l'information sur un même câble. Donc ça aussi, c'est un point qui est important en termes d'écologie, puisque cela est éco-responsable. On mutualise en quelque sorte une ressource, un produit, pour en avoir plusieurs usages.
Aujourd'hui, on a des câbles sur lesquels on amène de l'énergie. Jusqu'à quelle puissance on...
Écoute, suivant le dernier standard qui a été ratifié donc définitivement en janvier 2019, donc qui est le 802.3BT, c'est son petit nom, aujourd'hui, on peut délivrer donc 90 watts sur le port d'un switch et délivrer donc jusqu'à 71 watts au bout de 90 mètres de câble 4 paires catégorie 5 standard, quoi. Donc cela nous permet d'avoir des avancées importantes au niveau, je dirais, du bâtiment, au niveau tant de sa consommation énergétique que de son éco-responsabilité, parce qu'évidemment, on veut utiliser moins de produits par le fait qu'on mutualise en quelque sorte les mêmes câbles pour en avoir plusieurs usages, plusieurs fonctions. Donc du coup, on va abaisser la quantité de cuivre, par exemple, que l'on utilise. On va abaisser, bien sûr, la traçabilité CO2, je dirais, des produits que l'on installe dans le bâtiment. Savez-vous, par exemple, que pour fabriquer un produit, 80% de l'énergie primaire est dépensée dans la constitution des matières premières qui sont utilisées pour le fabriquer. Donc tout cela, et là je parle, je dirais, en plusieurs dizaines de tonnes d'équivalent CO2 je dirais, pour un bâtiment typique de 10 000 m². C'est pour vous dire qu'on ne parle pas du chiffre derrière la virgule, quoi. Donc, il y a des avancées, de toute façon, comme celle-là, qui seront incontournables, qui seront imposées, comme tu le disais à l'instant, par la LTECV, par le décret tertiaire, et qui vont nous amener, de toute façon, à aller demain vers plus d'éco-responsabilité. Le bâtiment, aujourd'hui, c'est 24% des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc c'est celui qui est en tête, et on le sait depuis longtemps. Maintenant, bah voilà, il est plus que temps d'agir, quoi.
On est au pied du mur. Sébastien Meunier, justement, vous faites tous la transition. Sébastien Meunier, pour Jimélec, finalement, aujourd'hui, c'est la réglementation qui impacte le métier, là, c'est ce que vous disiez, le métier d'électricien.
La réglementation, c'est une chose, mais moi, je voudrais revenir sur ce qui dépend de nous aussi. Parce qu'on ne peut pas tout attendre de la réglementation. Ça nous donne un cap, ça nous donne une trajectoire. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je voudrais réagir sur 4 points par rapport à tout ce qui a été dit. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. La première chose, c'est justement la position du Jimélec par rapport donc à ces démarches, à ces nouvelles technologies et aux impacts. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prôner, et on travaille avec tous nos adhérents là-dessus, sur une démarche d'ouverture. Alors, ouverture d'abord des hommes et des femmes, hein, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec d'autres organisations professionnelles sur ces thématiques. Ça peut être au travers de groupes de travail, par exemple, sur la formation. Parce que ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un gros enjeu, donc il faut qu'on résolve ce sujet-là ensemble. Alors, évidemment, ça peut être les pouvoirs publics sur la formation initiale, mais c'est aussi la formation continue, la formation de tous les professionnels qui sont déjà en activité dans cette filière du bâtiment. Vis-à-vis de ça, on a mis en place une démarche de partenariat et de collaboration active. Et donc, je vous remercie encore de nous avoir invités aujourd'hui, ce qui montre qu'effectivement, on est dans cette dynamique de collaboration active. Le deuxième point, c'est... Je voudrais revenir sur les challenges en fait de ce qu'on appelle intégrateur électricien. Et je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est effectivement dans la gestion active de bâtiments. Alors, anciennement, dans certains lots techniques, on appelle ça la GTB, donc, qui permet d'atteindre ces économies d'énergie à 2 chiffres, hein, de 20 à 60% suivant les usages. Je parle notamment des bâtiments existants. On a 900 millions de mètres carrés tertiaires à mettre à niveau. Donc c'est pas que 1% par an des bâtiments neufs, c'est tout le parc qui est existant. Donc là, on est sur des économies de 20 à 60% et on vient accélérer l'efficacité, l'ergonomie, l'utilisation de ces systèmes avec des logiciels. Et donc ça, si on s'est pas formé correctement sur ces logiciels, ben on n'atteindra pas facilement, avec des temps de retour sur investissement qui doivent être courts. Hein, tout le monde veut moins d'un an. La bonne nouvelle, c'est que dans le tertiaire bureau, bon, c'est à peu près 3 ans la moyenne. Donc on est quand même sur des temps de retour assez faibles. Mais néanmoins, il faut appréhender ce que c'est qu'un logiciel. Alors, autant on peut être agnostique, j'entends ce mot-là parfois, sur des produits. Et puis, vous savez, on peut mettre la marque équivalent dans le cahier des charges. Hein. Donc c'est... un produit XY ou équivalent. Dans les logiciels, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, il y a des niveaux fonctionnels qui peuvent se ressembler, mais dans le logiciel, tout est spécifique. Et donc, il faut appréhender ça, comme disait Gilles, pas par la peur, mais par la formation, tout simplement. Un deuxième exemple, ce sont les nouveaux usages du bâtiment. Donc, j'ai parlé de l'énergie, mais pas que. Il y a aussi les nouveaux services. On a envie d'avoir... un logiciel de géoguidage à l'intérieur du bâtiment. Alors, pas pour un bâtiment de 500 mètres carrés, mais dès qu'on arrive sur des gros ouvrages, on a envie de pouvoir rejoindre les points d'intérêt, on a envie de pouvoir faire du travail collaboratif avec des réservations de salles ou de ressources. Donc tout ça, ce sont des usages qui ne sont pas liés à l'énergie, mais qui sont liés à la productivité, tout simplement, au mode d'utilisation de mon bâtiment. J'insiste pas, mais vous avez compris, il faut des logiciels pour que ça marche. Vis-à-vis de ça, le troisième point sur lequel je voulais réagir, et ça va avec le travail collaboratif, c'est que rien ne pourra se faire sans une certaine confiance numérique. Alors c'est vrai pour des raisons de cybersécurité, mais c'est vrai aussi tout simplement pour des raisons de s'approprier les solutions. Et l'intégrateur électricien, s'il veut correctement conseiller et alerter son client sur la meilleure solution qui est disponible, il ne faut pas qu'il ait peur, et il faut qu'il agisse en confiance. Et il faut qu'il agisse en confiance, y compris avec les fournisseurs. Parce qu'il ne pourra pas être agnostique déjà des logiciels. Donc il va falloir qu'il travaille en confiance dans un partenariat probablement renforcé, comme ça se fait déjà dans l'informatique et les télécoms depuis des dizaines d'années. Donc c'est pas un truc qu'on invente dans le bâtiment, c'est juste quelque chose qu'il faut décliner. Et puis cette confiance, elle viendra effectivement de la capacité de chacun d'entre nous, à commencer par les fabricants, à ne pas recréer des silos supplémentaires. Et donc toute l'énergie qu'on passe à désiloter nos fameux lots techniques dans le bâtiment et introduire plus de transversalité pour plus de services, il faut aussi que ça soit vrai dans les systèmes d'information et dans la data. Et nous au niveau du GMLEC, on a pris l'engagement très clair, et je le reprends aujourd'hui collectivement devant vous, c'est de tout faire pour désiloter, mettre à disposition les données, utiliser des protocoles interopérables, faire en sorte que cette valeur elle puisse être mise à disposition et utilisée correctement par les intégrateurs électriciens. Si j'ai encore une minute, mon quatrième point,
allons-y.
C'est de partager avec vous aussi quelques facteurs clés de succès qui me paraissent indispensables dans cette dynamique d'intégrateur électricien. Donc encore une fois, comme une solution pour atteindre nos objectifs et faire la mise en œuvre. Donc c'est la formation et la gestion des compétences, on en a parlé, je suis d'accord, sans ingénieur, ça va être compliqué, quoi. Il va falloir qu'on ait la bonne proportion, évidemment, d'ingénieurs. Et c'est vrai déjà dans tous les autres métiers d'intégration. Parce que, encore une fois, ce n'est pas l'électricien qui a inventé l'intégration. Ça s'applique. Et c'est déjà le cas. On parlait de vidéosurveillance. Évidemment qu'il y a quelques ingénieurs dans l'intégration de systèmes de vidéoprotection. Donc ça, c'est un point important. Et évidemment, associé à ça, il y a la montée en compétences et la maîtrise des réseaux et des logiciels. Là aussi, il faut une petite dose d'ingénierie, à la fois, on va dire, en avant-vente pour dimensionner correctement les systèmes, mais aussi en exploitation, parce que quand on a des pannes, y compris des attaques, ça se règle. Alors des fois, c'est juste un câble qui est débranché, mais si c'est plus compliqué, ça va demander un petit peu d'ingénierie. Y compris, d'ailleurs, évidemment, à commencer par les fabricants, parce que lorsqu'on va tomber sur un problème complexe, d'autres appellent ça un bug, ça peut se traduire aussi par du développement de logiciels sur site, par de la correction de programmes. Et donc, évidemment, il faut aussi qu'il y ait un bon support du côté des fabricants. Donc voilà, tous ces clés de succès qui visent finalement à renforcer le conseil et l'expertise de l'intégrateur et de l'électricien, qui était déjà le cas pour des raisons évidentes de sécurité électrique, sauf que là, on rajoute en plus d'autres valeurs, donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour le développement de cette profession.
Lilian Cole pour Anitech, finalement, on voit aussi, quand on tire le fil de ce que vous avez dit, on voit aussi l'électricien intégrateur qui installe des produits chez le maître d'ouvrage, donc qui doit avoir des compétences sur les logiciels, sur les produits, mais du coup, il installe des produits chez un client, et donc il a quelque part une forme de responsabilité sur la manière dont vont avoir lieu, vont être gérées les données qu'il va installer. Et est-ce que ça aussi, ce n'est pas un axe de progression, de savoir conseiller son client et le mettre en alerte ?
Tout à fait, mais je rejoins ce qui vient d'être expliqué par les différents intervenants. On parlait de confiance, oui, confiance numérique. On la revoit donc à travers le RGPD. Et le RGPD impose toute une série d'articles. On n'aura pas le temps de développer sur le Security by Design et autres. Mais pour rejoindre ce que vous venez de dire, tout à fait, à travers l'analyse d'impact sur la vie privée, qui n'est autre qu'une analyse des risques sur l'aspect numérique. L'intégrateur, maintenant, effectivement, par rapport à son donneur d'ordre, aura effectivement un devoir de conseil et d'information qui ne sera plus du tout le même que ce qui se passait avant ou antérieurement au 25 mai 2018. Donc, effectivement, là aussi, incontournable, la montée en compétence dans le domaine, là aussi, de l'analyse des risques ou de l'impact sur la vie privée. C'est aussi, et ce sera demain aussi pour l'intégrateur, le moyen de devenir là aussi un acteur de confiance par rapport à son donneur d'ordre. Finalement, il ne faudra pas envisager, comme le pensent certains donneurs d'ordre avec qui on discute, que l'analyse des risques arrivera a posteriori. Non, elle le sera avant. C'est de l'analyse des risques à travers les préconisations qu'elle va mettre en œuvre que sera ensuite développée une analyse fonctionnelle, que sera développée ensuite quel sera le produit et le qualitatif produit à mettre en œuvre derrière, ainsi de suite. On pourrait aller comme ça jusqu'aux opérations de maintenance. Donc effectivement, les risques cyber, il ne faut pas en avoir peur. Si on s'y attelle, si on s'y accroche, si on commence à se former, c'est derrière également, c'est aussi, on va dire, de la marge à aller chercher pour les entreprises. Qui pourront ensuite, on va dire, vendre ces analyses-là de manière assez intéressante à leurs clients.
Oui, donc il y a une opportunité, Dominique Naert, pour Cluster Patrimoine Bâti. Il y a une opportunité pour toute la filière exceptionnelle, comme vous le disiez en propos tout à l'heure, d'être un opérateur incontournable dans le bâtiment. Mais vous avez travaillé aussi sur les systèmes de formation de manière plus globale. Et comment vous voyez, si on devait décrire les formations idéales pour arriver et monter cette marche, finalement, je rejoins un peu le début de cette table ronde.
Alors en fait, ce qui est intéressant dans tout ce qui a été dit là, c'est qu'en fait, quand on parle d'analyse de risque ou quand on parle effectivement de la coordination et l'ouverture vers les autres et la coordination qu'on doit avoir les uns avec les autres, en définitive, on ne parle pas tellement de compétences, on parle d'état d'esprit. En fait, aujourd'hui, c'est un problème d'état d'esprit, un problème de compréhension de ce qui se passe et faire en sorte qu'avec un changement de management, on arrive à faire les choses autrement. Alors là, l'une des choses qui me paraissent intéressantes, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui arrive actuellement dans le bâtiment ? Il arrive dans le bâtiment ce qui est souvent arrivé, par exemple, dans l'aéronautique ou dans la construction navale il y a 30 ans ou 40 ans. Ou dans le spatial, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir un véhicule qui va s'appeler un bâtiment, et ce véhicule qui s'appelle un bâtiment va être piloté. Il va être piloté à l'instar d'un pilotage d'un avion. Donc, ça veut dire quelque part que quand on parle d'ingénieurs, il va falloir bien comprendre que ce sont des ingénieurs de chantier, des ingénieurs d'installation. Et ça, c'est pas tout à fait ancré dans l'esprit des gens. Or, c'est ce qu'il va nous falloir. Quand on parle de formation, il faut à la fois de la formation qui va effectivement de l'exécutif jusqu'au chantier, c'est-à-dire une filière qui fait que quelqu'un va pouvoir peut-être démarrer par un CAP et terminer par un bac plus 6 comme un ingénieur qui l'aura fait valider peut-être d'ailleurs et qui fera qu'à un moment donné, on va peut-être être attiré ou les parents, parce que le principe, on est bien d'accord que quand on veut faire en sorte de rentrer dans un métier, il y a des parents qui peuvent arriver derrière et qui disent « Oui, d'accord. » Alors. D'abord, je me souviens, moi qui suis maçon, mes parents m'avaient dit électricien, je veux bien. Parce que c'est un peu le métier chic du bâtiment, mais pour le reste. Et je suis resté quand même maçon. J'ai fait de la taille de pierre après. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut donner, de quoi manger à ces jeunes. Il faut donner de quoi manger aux parents. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça ne suffit pas. Tout à l'heure, on parlait de la peur. Sans doute faut-il monter des systèmes de hotline qui répondent aux angoisses des artisans, aux angoisses des entrepreneurs, aux angoisses de l'ouvrier sur le chantier, en tout cas du chef d'équipe ou du chef de chantier. Parce qu'on ne sait pas tout. Et quand on est coincé devant un truc tout simple, on veut tout de suite pouvoir prendre le téléphone. En tout cas, aujourd'hui, on a d'autres systèmes grâce au web. Mais il faut trouver des systèmes. Donc, sans doute, mettre en place des systèmes comme ça. Et puis, il y a une dernière chose. Je reviens sur mon idée de départ que j'essaye de faire valoir comme ça partout. Pourquoi les emballages des équipements électriques et pourquoi pas directement dans l'équipement électrique, on n'a pas une puce RFID ou NFC ou un QR code qui nous permet tout de suite de savoir comment on va le monter par une animation. Parce que c'est des petites choses comme ça. À chaque fois, on veut des trucs globaux avec 6 ans de formation. Non, ce n'est pas 6 ans de formation. Il faut aussi des trucs de 3 minutes de formation. Donc, il faut des systèmes à 6 ans, des systèmes à 2 ans, des systèmes à 6 mois et puis des systèmes à 2 minutes. Sinon, on ne fonctionnera pas. Donc, on peut faire des propositions, mais enfin là, comme m'ont dit mes camarades, ça va être long, mais on pourra en reparler.
Il ne faut pas vouloir monter la marche énorme tout de suite. Il y a des petites marches sur lesquelles il faut progresser. Gilles Genin pour la FFIO aujourd'hui, sur la structuration, là, parce que vous avez parlé sociologie aussi, hein, si j'ai bien entendu votre propos, à travers les parents qui poussent ou pas leurs enfants dans des filières. Et je dirais, on pourrait même parler de sociologie de l'électricien quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez cette volonté de la part des électriciens d'embaucher des ingénieurs, pour reprendre votre propos?
Aujourd'hui, pour l'instant, les électriciens sont un peu interloqués, en fait. Donc aujourd'hui, ils s'interrogent, je dirais, vers quelle direction il faut aller, comment appréhender les choses, comment les comprendre. Et je pense qu'il y a d'abord une grosse démarche de pédagogie à faire, pas seulement d'ailleurs vis-à-vis des électriciens, mais aussi beaucoup vis-à-vis des donneurs d'ordre, hein, aux maîtres d'ouvrage, aux promoteurs immobiliers, etc., qui n'ont en fait souvent qu'une vision purement très marketing, je dirais, de ce qu'est le numérique, qui n'en a pas forcément une vision très concrète. Quand on lui parle, et qu'on lui dit d'ailleurs, comme le déclare d'ailleurs le label R2S, auquel j'ai participé à la rédaction d'ailleurs, quand on lui explique, je dirais, dans ce label, qu'il va lui falloir définir dans son programme immobilier un chapitre qui va porter sur les services numériques qu'il attend demain dans son bâtiment. Quand on lui explique que jusqu'à présent, il construisait un bâtiment, il concevait un bâtiment sans se préoccuper de ce que serait son coût énergétique d'exploitation, son bilan d'émissions de carbone d'exploitation, tout cela, c'est un temps qui est révolu. On ne peut plus aujourd'hui construire et promotionner un bâtiment sans se soucier de ces éléments-là, alors qu'on sait pertinemment bien, je dirais, que quelque part, on va dire les choses telles qu'elles sont, les différentes réglementations thermiques qui ont existé jusqu'à présent, bon, qui ont eu le mérite d'exister malgré tout, hein, comme le disait Sébastien, elles ont permis de, malgré tout, de porter des trajectoires. Maintenant, ceci dit, je dirais, quand on vient imposer un RT avec un CEP à 50 kWh équivalent primaire par an, sans mettre en place derrière de dispositifs de vérification, sans prendre en compte, je dirais, dans ces consommations, les consommations d'usage du bâtiment, qui en constituent en fait l'essentiel de sa consommation, il faut bien le savoir, il est clair que tout cela, il faut que nos maîtres d'ouvrage, il faut que nos donneurs d'ordre le sachent. Et donc, à ce niveau-là, il y a un gros travail de pédagogie à faire, et pas à faire seulement vis-à-vis des électriciens.
Donc aussi une responsabilité pour le donneur d'ordre.
Exactement.
On a passé beaucoup de temps sur cette table ronde. Je crois qu'on peut les applaudir pour cette intervention. Merci à vous, messieurs.